Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Karine Galli.
23h20 sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit, l'after foot avec Maxime Chano, avec Fabrice Hawkins, avec Kevin Diaz. Vous le savez, on est tourné vers la Coupe du Monde qui débutera ce jeudi 11 juin. RMC, radio officielle du Mondial. Il y avait des matchs amicaux ce soir. Il y a eu notamment un but partout entre le Maroc et la Norvège, deux nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et on va s'intéresser maintenant à la Mannschaft, l'Allemagne. Et nous sommes avec Polo Breitner. Salut Polo.
Salut,
bonsoir
Polo.
Karine, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Bon Polo, l'Allemagne a battu les USA, le match a eu lieu à Chicago, c'était hier, mais on rappelle évidemment, je suis désolé, hein, que l'Allemagne a complètement raté ses deux dernières Coupes du Monde, ça avait été défaite dès la phase de groupe en 2018 alors qu'ils étaient tenants du titre en 2014, et à nouveau rebelote 2022, ils sont pas sortis de la phase de groupe, bon ils peuvent pas faire pire cette fois-ci.
Bah non, puis vu que
tout le monde est qualifié maintenant.
Oui, tout le monde est qualifié maintenant, mais ça fait plaisir aux enfants de 10 ans. Donc tout ça, c'est oui. Enfin, si la nationale Mannschaft ne passe pas ce groupe-là, ça risque d'être, je sais plus, qu'ils arrêtent le football les Allemands quoi. Mais moi, j'en reviens toujours à 2018 parce qu'autant 2022 peut être explicable, 2018, ce qui s'est passé est complètement fou parce que
défaite face au Mexique et la Corée du Sud.
Ouais, mais surtout, je rappelle que moi, je recevais des coups de fil de journalistes français qui étaient persuadés que l'Allemagne allait être championne du monde en 2018. L'Europe Espoir avait été remporté par une équipe à prime par les Allemands. La dernière Coupe des Confédérations avait été remportée par une équipe à prime par les Allemands. Et on avait un effectif pléthorique pour la Coupe du Monde et on a vu ce qui s'est passé. Donc tout ça un peu est toujours un peu traumatisant pour les Allemands. Ils ont du mal à en parler d'ailleurs. Donc ils font des documentaires non pas sur cette période-là, mais plutôt sur des périodes où ils l'ont emporté précédemment. Je pense à 90, il y a aussi le traumatisme de 94, ils ne comprennent toujours pas comment ils ont pu perdre face à la Bulgarie, etc. Donc on est dans une période un petit peu spéciale, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément... Alors c'est un peu un tableau en clair-obscur hein, ce qui se passe en ce moment, puisqu'on est en tout et pour tout sur 9 victoires à la suite, donc l'Allemagne est quasiment invaincue depuis un an maintenant. Et par contre, il y a des mauvaises nouvelles, puisque Gnabry, on le sait, n'est pas à la Coupe du Monde qui est blessé. Et celui qui était un petit peu... la surprise de Nagelsmann,
le jeune Bayern,
est aussi blessé. Donc en fait, on a tout le côté droit qui est absent et finalement c'est Leroy Sané qu'on ressort du chapeau et qu'on met sur le côté droit. On connaît très bien la carrière du joueur qui évolue en Turquie en ce moment. Il peut te faire des matchs extraordinaires comme il peut se planter lamentablement. Et le match en fait contre les États-Unis qui était très intéressant parce que c'est un pays organisateur qui a une très très belle composition au moins au milieu de terrain et devant, beaucoup moins derrière, hein, je parle des États-Unis là, quand les Allemands jouent, tu vois qu'ils sont largement supérieurs aux Américains et lorsqu'ils commencent à baisser de pied à l'heure de jeu et qu'on commence à faire le turnover, tu sens que c'est un peu plus compliqué pour la nationale Mannschaft. Donc la victoire était paradoxalement elle est importante parce que c'est ce genre de match préparatoire où tout le monde dit mais c'est pas grave, c'est des matchs préparatoires, mais l'emporter contre un pays organisateur qui va vouloir je pense réussir une bonne compétition. Enfin devant il y avait Dest, enfin quand je dis devant c'est les 7 hein, parce que c'est d'ailleurs Pochettino joue maintenant dans une défense à 3 aux États-Unis, c'est intéressant. Les Allemands, maintenant c'est fixé, ce sera une défense à 4 sous Nagelsmann. T'avais Dest, McKenny, Adams, Robinson, Pulisic, Tillman et Balogun. On les connaît tous ces joueurs-là. Oui. Donc c'est vraiment une belle équipe américaine, je trouve. C'est que derrière, c'est un peu faible, faiblard. On va voir les gardiens. Mais je trouvais cette victoire sur la méthode et ce qu'ils ont réussi assez intéressante. Mais pas que non plus s'emballer comme a pu le faire Nagelsmann en pensant que Wirtz et Moussiala ont fait des belles performances. Il y en a un qui est pas à 100%. C'est évidemment le joueur du Bayern et Wirtz a été quasiment, je vais pas envie de dire le plus mauvais de la sélection allemande à Chicago, mais pas loin.
On rappelle, hein, le match a eu lieu hier. Les buteurs allemands c'était Havertz et Sané. T'en as parlé de cette blessure triste évidemment pour le jeune du Bayern, Karl, qui est donc forfait. Il est touché à la cuisse gauche. Pas de Coupe du Monde pour lui. Il est remplacé par Ouédraogo.
Superbe joueur au passage en devenir. Superbe joueur.
Quand on voit le groupe Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur, donc a priori c'est
l'Équateur,
l'Équateur qui est la nation la plus forte des trois, ou bon, en tout cas c'est Curaçao qui est la plus faible, ça on sera tous d'accord.
En fait, pour bien lancer la Coupe du Monde, évidemment personne ne doute que les Allemands vont l'emporter face à Curaçao. La question, ça va plus être la prestation des Allemands, c'est-à-dire qu'il va falloir lancer la Coupe du Monde, parce que dès le deuxième match, ça va être contre les Ivoiriens, et évidemment c'est un gros outsider, donc il va falloir faire attention. Et puis bon, l'Équateur quand même, ça devrait être faisable pour la sélection allemande. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, si tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait personne y croit en Allemagne.
Je pense que c'est le meilleur indicateur, c'est aussi leur campagne de qualification. Alors ils sont tombés dans le groupe du Luxembourg, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir les regarder plusieurs fois. Dis-moi si je me trompe ou non, mais il me semble qu'ils perdent le premier match contre la Slovaquie, ouais, 2-0, et ça, alors c'est sur le dernier match qu'ils les éclatent 6-0. Il y avait une certaine revanche, mais je pense qu'ils finissent seulement avec 15 points, la Slovaquie avec 12 points. Donc, enfin, moi je les ai pas trouvés très très impressionnants, et notamment sur les deux matchs contre le Luxembourg. Est-ce qu'ils peuvent jouer en leur faveur sur cette Coupe du Monde? Tu l'as dit, c'est leur groupe là.
Le problème, c'est qu'il y a théoriquement, encore une fois, sur le papier, on verra ce qui va se passer, évidemment, la France qui se présente en huitième de finale, et personne ne voit les Allemands passer les Français. C'est pour ça que d'ailleurs que la polémique ou pseudo-polémique du retour de Manuel Neuer fait rigoler beaucoup de personnes, d'autant plus qu'il est toujours blessé, hein, il joue pas, hein, c'est Baumann, qui d'ailleurs a fait des déclarations encore après la rencontre contre les États-Unis, comme quoi il avait vraiment pris un coup sur la tête quand on lui a annoncé que finalement c'était Manuel Neuer et qu'il revenait. Donc il y a ce système de dégradation d'Oliver Baumann qui est difficilement compréhensible. Il y a beaucoup d'ailleurs d'anciens internationaux allemands et gardiens qui se sont exprimés en disant mais ça n'a aucune raison de faire revenir Manuel Neuer comme ça. Enfin bon.
Oui, mais Polo, avant que finalement Neuer revienne, alors qu'on croyait tous qu'il allait jamais sortir de sa retraite, beaucoup demandaient son retour. Donc c'est quand même un peu paradoxal.
Non mais on peut estimer, comme le fait Nagelsmann, que Manuel Neuer est l'icône du foot allemand à ce poste-là, à ce poste de gardien, et que à partir du moment comme Nagelsmann, il a raison de dire que Manuel Neuer est toujours l'un des trois meilleurs gardiens allemands. Donc il dit je l'emmène avec moi à la Coupe du Monde. Le problème c'est tout le tintamarre qu'il y a eu sur le fait que même Manuel Neuer dit qu'il veut pas revenir, qu'il est tout le temps blessé. D'ailleurs, encore une fois, il ne joue pas en ce moment parce qu'il est blessé. On a repoussé le fait de le nommer dans le groupe pour la Coupe du Monde à cause de cette blessure. Nagelsmann ne savait pas quoi dire en conférence de presse, à tel point qu'on s'est posé la question qui le drivait au niveau de la communication pour la sélection allemande. Donc tout ça fait que c'est moyen. Maintenant, pour revenir sur la phase de groupe et de qualification, le problème c'est que tu as vraiment une équipe d'Allemagne à deux visages. Il y en a une qui est capable de mettre 5-0 à tout le monde, et il y en a une qui est capable de faire des matchs extrêmement médiocres. Et ça, c'est un petit peu le problème que je vois. Lundi dernier, dans les drôles de dames, on me posait la question qu'est-ce que je pensais de cette équipe. Moi, j'ai toujours l'impression de commencer depuis plusieurs années avec cette équipe d'Allemagne un championnat d'Europe, mais le championnat d'Europe espoir. Je sais pas ce que ça va donner, en fait. Jamais. Donc moi, je vais me laisser porter pendant cette Coupe du Monde, parce qu'il y a du talent, il y a des choses que j'arrive pas bien à comprendre, évidemment. Là, on a vu que Nathanael Braun, au poste de latéral gauche, est passé devant Rome, ce qui est quand même assez impressionnant. On annonce Braun, d'ailleurs, au Bayern, hein, c'est pas fait, mais on l'annonce au Bayern. On a toujours la question aujourd'hui du poste sur le côté droit, évidemment. Moi, j'aimerais bien que ce soit Leveling. Là, Leroy Sané a pas été extraordinaire. Est-ce que Mecha, Pavlovic vont être au niveau. Kimmich, évidemment, au poste d'arrière-droit, alors que, vu la saison qu'il a faite au milieu de terrain, ça pose peut-être des questions. Mais en tout cas, oui, Kai Havertz devant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de véritable numéro 9. Undav, c'est pareil, c'est plus un 9,5. Et puis surtout, moi, ça sera toujours la même question, c'est comment va fonctionner le duo Wirtz-Moussiala. Et Moussiala, encore une fois, va redevenir, évidemment, l'un des meilleurs joueurs du monde, mais en ce moment, c'est pas ça.
Et en termes de profondeur de banc, justement, je suis un peu inquiet quand je regarde cette sélection. Tu parlais de la possible confrontation entre l'équipe de France et la National Mannschaft en huitième de finale. On parle de richesse de l'équipe de France, notamment devant. Je vois pas la même chose, évidemment, en équipe d'Allemagne, mais de toute façon, il y a peu d'équivalent, même au monde. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ce banc de touche-là? Derrière Wirtz, t'as commencé à donner des éléments de réponse avec la blessure, notamment de Gnabry, mais est-ce que ça va pas leur faire défaut, justement, sur les très, très gros matchs, d'avoir des remplaçants?
C'est la réflexion que je me faisais quand je vois la durée de la Coupe du Monde. c'est 8 matchs quand même. C'est-à-dire que t'as pas intérêt à te prendre des blessés ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas que Ouédraogo soit appelé au dernier moment par Nagelsmann. C'est que Ouédraogo, c'est pas un ailier. C'est un milieu défensif 6-8. C'est un récupérateur. Donc encore une fois, on a un milieu de terrain qui est très bon. On pourrait très bien avoir Stiller comme titulaire, etc. Mais un Pascal Gross n'a plus rien à faire là, même s'il a fait six très bons mois en première ligne. Mais le banc, en fait, pour moi, il y a des trous en fait dans cette équipe, qui est le problème de l'équipe de la sélection allemande depuis, on va dire, la fin de Klose et de Mario Gomez. Il n'y a plus de véritable grand numéro 9. Moi, au niveau des défenseurs centraux, je me pose pas trop de problèmes. Et Pavlovic, il y a quand même un bloc Bayern qui est là, donc c'est pas
heureusement d'ailleurs.
C'est pas mauvais non plus. Mais le problème, c'est vrai qu'il faudrait pas qu'il y ait 2-3 absents avec des cartons jaunes, cartons rouges, etc. Parce que ça me semble un petit peu léger à ce niveau-là. Donc voilà, moi je encore une fois, je vais me laisser porter. Je pense que l'Allemagne est un bel outsider. De là en faire un favori, c'est peut-être un peu trop. Mais ça. Ça fait longtemps en fait que l'Allemagne n'a pas vécu ce genre entre guillemets de déclassement, mais c'est plus parce que moi je sais pas analyser l'équipe d'Allemagne en ce moment parce qu'elle est capable encore une fois de mettre des raclées à tout le monde et puis de rater complètement ses rencontres. Donc je sais pas ce que ça va donner.
Ce qui est quand même fou aujourd'hui, c'est en tout cas nous qui avons connu le football des années 90 et surtout des années 2000, mais on vient de dire du Brésil, ah bah ils sont plus favoris. On vient de dire de l'Allemagne, ils sont outsiders. L'Italie, ils sont pas là. L'Angleterre, c'est éternel football, is it coming home? Mais en fait, t'as quand même les grandes nations d'antan. Alors là, il y a l'Argentine qui revient un petit peu, mais même si Messi est sur la fin, mais la prochaine compétition sans Messi, pas sûr du tout qu'il fasse partie des favoris. Aujourd'hui, les Pays-Bas, qui étaient quand même toujours des équipes qu'on attendait, tu les vois même pas, tu sais même pas s'ils vont aller en quart de finale. Donc ça fait quand même beaucoup de grandes nations.
Il y a moins de talent.
Il y a moins de talent, ou alors le football se rééquilibre.
Ben, c'est ça. Moi,
c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les nations travaillent très bien. Ouais. Et donc, il y a de moins en moins de nivellement de valeur, je pense, même s'il y a encore.
On en revient toujours au même débat. Il y a 20 ans, vous prenez la liste des ballons d'or et vous prenez la liste des ballons d'or.
Ah, bah oui, c'est terrible.
De cette saison, combien dans les 10 premiers de cette saison, combien vont, simplement dans le classement des 30 meilleurs d'il y a 10 ans, 15 ans?
C'est un éternel débat, ça. C'est compliqué de comparer les footballs actuels avec le.
Non, moi je parle juste de talent. Je dis pas qu'ils sont moins performants ceux de cette année.
C'est parce que le football c'est de plus en plus collectif et un peu moins individuel. Donc c'est vrai qu'on ressort un peu moins de talent individuel. Mais enfin,
c'est un peu ça.
Moi je compte du monde sur ce que nous fait rêver.
Non, mais je suis d'accord avec toi. On en parlait en off là quand tu compares les noms que tu voyais en 2006, en 2010, ou que tu voyais des stars dans quasiment chaque nation. Tu te dis parfois là. Non, en effet,
l'Allemagne ça a quand même été souvent. C'est pour ça que Polo la connaît mieux que nous, mais est là pour en parler. Mais l'Allemagne ça a quand même été souvent justement une force collective.
Collective, ouais.
Justement une force collective.
Ça a toujours été leur ADN.
Voilà, sublimé par des buteurs, par des talentueux, mais quand même.
Ils sont nés comme ça. On peut même remonter au début du XXe siècle. Ils se sont construits comme ça. Les Allemands se voyaient comme une armée. Et en 1900, et ça, je parle de ceux qui ont écrit sur le football allemand de l'époque. Hein. Ils se voyaient pas comme des gens doués individuellement et qui compensaient par un collectif qu'on devait y arriver comme ça. Il y a un très bel exemple. C'est évidemment, malheureusement, un très mauvais exemple, ce qui s'est passé en 1936 avec, à la 1934, en 1938. La Coupe du Monde où on a fusionné les Autrichiens très talentueux avec des Allemands qui étaient des soldats. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Évidemment, c'était une période très particulière. Mais les Allemands se sont toujours vus, en fait, comme des gens qui, collectivement, devaient réussir. Ce qui, d'ailleurs, on leur a enlevé du talent, ce qui est complètement faux quand on voit les nombres de joueurs qui ont joué pour la sélection allemande. Mais ça, c'est le problème de leur histoire. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, moi, je comprends les débats, le monde change, le monde se soucie, mais personne n'est capable de m'expliquer pourquoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé en 2018. D'ailleurs, quand on revoit les matchs, les Allemands devaient passer tranquillement. Ils ont balayé toutes les équipes. Et puis, c'est juste une question de réalisme devant le but qui fait qu'ils ne sont pas passés au stade supérieur. Ensuite, là, maintenant, on a une Coupe du Monde à je ne sais pas combien. Donc
48.
Y a même 48.
Polo, on va continuer d'en parler, évidemment, mais il faut faire une courte pause. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. On continue de parler, évidemment, de l'Allemagne qui est attendue après deux énormes déceptions en 2018 et en 2022. Et puis on dira un petit mot également de la Suisse que tu suis et qui a fait match nul. La Suisse qui est opposée à l'Australie, deux nations qualifiées pour le mondial. À tout de suite.